enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce matin, je crois vraiment que Dieu a mis sur mon cœur le message que je vais vous donner. Je crois qu'il contient des vérités, mais voyez-vous, quelqu'un disait, plus le camion de vérité à dire est lourd, plus le pont d'amour doit être fort. Et j'aimerais vous dire tout ce que j'ai à vous dire avec beaucoup d'affection, avec beaucoup d'amour, dans un seul but, nous construire ensemble. Parfois nous sommes maladroits dans notre manière de communiquer, parfois nous pouvons sans le vouloir blesser. Ça me rappelle une petite histoire que j'ai racontée à Claude l'autre jour. C'est une femme qui part en voyage et puis elle est absente pour 3 jours. Alors qu'elle est arrivée à son lieu de destination, elle appelle son mari et puis elle lui dit « Chérie, tout va bien à la maison ?» Il lui dit « Tout va bien. Ah, juste une chose, ton chien est crevé. » Alors, lorsqu'elle est venue à la maison 3 jours plus tard, elle lui dit « Écoute, Bichou, c'est comme ça que j'aimerais que tu m'appelles, mais bon, ça ne fait rien. Donc je me le dis à moi-même. Écoute, Bichou, j'étais parti en voyage, mais tu vois, tu m'as annoncé la mort de Fifi un peu de manière violente. Ça m'a bouleversé. Pendant les 3 jours, j'étais comme assommé par la manière dont tu l'as annoncé. Il a crevé. Tu aurais pu m'expliquer ça de manière plus poétique. Par exemple, dire, ma petite biche, Fifi est montée sur le toit et il a dérapé. Et puis il est tombé dans le jardin. Et j'ai dû l'amener au vétérinaire. Chez le vétérinaire, oui. Et puis le lendemain, tu m'aurais dit la suite. Fifi s'est endormie dans la paix. Le vétérinaire a dû l'anesthésier. Mais là, il a crevé. Ça, c'était dur. Alors, il la regarde et il dit, excuse-moi, je te demande vraiment pardon. Je ne voulais pas être aussi direct. Elle dit, écoute, c'est pardonné. On clôt l'affaire. C'est terminé. Dis, j'étais pas là depuis 3 jours. Comment va maman? Maman est montée sur le toit. Vous voyez, tout en voulant bien faire, on peut parfois mal faire. Ce matin, Seigneur, aide-moi à communiquer de manière à ce que cela soit bien reçu et à ce que cela construise mon thème ce matin. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dis-le à ton voisin. Dis-lui d'abord, t'as bien fait d'être là. Parce que ce que tu vas entendre, eh bien, c'est pour moi. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Chers amis internautes, vous êtes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» 1 Corinthiens 6, 19 à 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Amen. Nous aspirons tous à être remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qui ne désirerait pas être rempli du Saint-Esprit parmi nous? Lorsque la Bible me dit que je suis le temple du Saint-Esprit, alors je vis dans l'espérance d'être rempli de sa présence comme le temple de Salomon le fut le jour de la dédicace. Rappelez-vous ce qui est arrivé à 1 roi 8. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. La gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. La gloire de l'Éternel veut remplir le temple que tu es. Et tu ne peux pas te contenter de moins que de la gloire de l'Éternel qui inonde ta vie. Frères, sœurs, arrêtez-vous un instant. Ne vous contentez pas d'une vie chrétienne superficielle, d'une vie chrétienne d'apparence. Soyez des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, remplis de sa présence, que le temple que vous êtes soit inondé. Cependant, que signifie être rempli du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'implique le fait d'être rempli du Saint-Esprit? Ah, nous chantons parfois que nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? On pourrait le chanter ensemble. Tiens, on va le prendre ensemble. Ne sais-tu pas, tu es le temple du Saint-Esprit. Je vais déprimer avec vous ce matin. Hein? Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple du Saint-Esprit. À ça, que répondons-nous? Nous répondons, oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. À regarder certains vivre, moi j'ai envie de chanter cela. Non, je ne sais pas que je suis le temple. Non, je ne sais pas, je suis le temple. Non, je ne sais pas que je suis le temple. Si je le savais, ça se verrait. On dit des choses qu'on ne vit pas. Si tu le savais vraiment, alors ça se verrait. On chante facilement, légèrement. Je suis le temple. Oui, je sais, je suis le temple. Mais si je sais que je suis le temple, alors c'est ma vie entière qui change. Permettez-moi, pour mieux me comprendre, eh bien, permettez-moi un instant de nous ramener à l'origine, au but que visait le temple. Et ce sera là mon premier point. Quel était le but et le sens du temple dans l'intention divine? Le but et le sens du temple dans l'intention divine était la présence de Dieu et sa manifestation au milieu des hommes. Ça, c'était le but du temple. Être présent et se manifester au milieu des hommes, c'était l'objectif que Dieu avait et l'intention qu'il avait lorsqu'il demandera qu'un temple lui soit dressé. Rappelez-vous, faisons un petit parcours, remémorisation. Dans la Genèse, Adam et Ève sont dans la présence de Dieu. Dieu est là, Dieu est dans le jardin, Dieu leur parle journellement, Dieu leur parle régulièrement. Et puis viendra la rupture, la chute, ils furent sortis du jardin, ils furent sortis du paradis. À ce moment-là, cette communion régulière ne sera plus, à ce moment-là, cette communion constante ne sera plus. Et voilà qu'ils vont apprendre à s'approcher de Dieu d'une autre manière. Cain, Abel, nous montrent qu'ils vont apprendre à s'approcher de Dieu au travers de sacrifices. Abel va faire un sacrifice et son sacrifice sera meilleur que celui de Cain parce qu'agréé. Et l'histoire continue. Dieu va de temps en temps se manifester, parler à un homme ou à un autre. du temps de Noé, par exemple, avant que le déluge vienne, Dieu va parler à un homme, il va parler à Noé. Mais j'aimais vous dire que la société du temps de Noé n'était que le résultat d'une seule chose, c'était le résultat de l'absence de Dieu. Une société dans laquelle Dieu n'est pas là est une société qui est condamnée à se dégrader parce que l'homme est incapable de toute forme de bien. Il se détruit lui-même, il s'auto-détruit. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il en sera comme du temps de Noé. La violence couvrait la surface de la terre. La violence couvrait la surface de la terre. Pedro, est-ce que tu pourrais m'augmenter un peu les retours, merci. La violence, qu'avons-nous aujourd'hui ? La violence couvre la surface de la terre. Est-ce que vous pouvez regarder une fois les infos sans qu'on vous parle de violence ? Mais nous sommes également dans une société qui a éliminé Dieu. Nous sommes dans une société dans laquelle Dieu n'a plus sa place. Le déluge arriva. Va naître à partir de Noé. Une nouvelle espérance pour l'être humain. Et puis Dieu va, comme cela, de temps à autre, se manifester à l'un ou à l'autre. Il se manifestera à Abraham, l'appellera en dehors d'Ur en Chaldée, va lui apprendre à le suivre, et il va choisir de se former un peuple qui sortira des reins d'Abraham. Naîtra son peuple, au travers des 12 tribus issues de Jacob. Et ce peuple va traverser différentes péripéties jusqu'à se retrouver, eh bien, en Égypte, poussé par une famine qui l'a, eh bien, poussé en dehors de Canaan. Là, la famille de Joseph arrivera. Et puis, elle se développera. Et elle se développera tellement que tout d'un coup, les Égyptiens commenceront à les craindre. Les Égyptiens commenceront à avoir peur d'eux. Alors, Pharaon donne un ordre, exécutez tous les premiers-nés mâles. Et la seconde chose, eh bien, il en fera des esclaves. Après 400 années de ce traitement, Dieu va entendre le cri de son peuple. Il va susciter un homme, Moïse, à qui il va encore une fois parler. Se manifester, il sera présent là dans le buisson ardent, il va lui parler. Il va lui montrer comment sortir le peuple, il l'interviendra à bras étendus de différentes manières. Nous connaissons tous l'histoire des 10 plaies d'Égypte. Et alors que le peuple est sorti, miraculeusement, glorieusement, Dieu va appeler son serviteur Moïse. Et là, sur le mont Sinaï, va lui donner les 10 commandements. Puis il va se manifester au peuple. Écoutez ce qu'il est dit dans Exode 20, versets 18 et 19. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette là-bas sur la montagne. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. » Ils avaient vu là une manifestation de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Elle leur devenait insupportable que Dieu parle au travers de toi. À ce moment-là, Dieu va désirer habiter au milieu de son peuple. Il dira à Moïse, chapitre 25, verset 8, « Ils me feront un sanctuaire. » Et j'habiterai au milieu d'eux. Il ne manifestera plus sa présence sur le Sinaï. Il habitera au travers du sanctuaire qu'il a commandé à Moïse, au milieu de son peuple, avec son peuple, et où caille son peuple. Dieu donne à Moïse l'ordre de construire le tabernacle. Suivez-moi toujours. C'est un peu de culture biblique de base. Mais je me suis rendu compte que les chrétiens ne lisent pas forcément toujours l'Ancien Testament, ne connaissent pas forcément, eh bien, ce qui fait partie de leur histoire. Il y a souvent de l'inculture à ce niveau-là. Pardonnez-moi. Mais j'aimerais vous encourager à prendre du temps pour lire tout cela, pour parcourir la Genèse, l'Exode, tous ces 5 livres du Pentateuque. Quand on arrive au Lévitique, on est parfois effrayé, fatigué par toutes ces lois. Puis parfois, c'est les généalogies qui arrivent. T'as l'impression de lire le bottin de l'annuaire, le téléphone. Engendra, 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 Peter Schmidt, Schmidt, Müller, etc. Mais c'est important que nous ayons au fond de nous-mêmes la mémoire de ce qui est notre, de ce qui fait partie de notre vie. C'est important. Le tabernacle va être construit. Écoutez à quel point il était important et à quel point il tient une place importante dans le livre de l'Exode. Plus de 13 chapitres lui sont consacrés, c'est-à-dire un tiers du livre. Dieu dira à Moïse, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. 18 fois, il est dit que Moïse agit selon l'ordre de l'Éternel. 18 fois. Pourquoi est-ce que je vous dis ces chiffres? Pour vous montrer l'importance que tient la place du tabernacle. Que tient la place du tabernacle dans le cœur de Dieu. Ils mirent à l'œuvre les meilleurs ouvriers, les meilleurs. C'est Dieu qui dit à Moïse, tu vas choisir celui-là parce qu'il est doué. Il est un artiste hors pair quant à tout ce qui est de la sculpture, de l'or, etc. Ce sont des gens doués qui furent invités à construire le tabernacle. Et maintenant, j'en arrive directement à ce qui nous concerne. Pourquoi Dieu tenait-il à cela ? Hébreux 8, verset 5, il est dit « Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fit-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » J'ai pris du temps pour faire ce court parcours avec vous, pour vous rappeler, vous remémorer un peu ces choses. Pourquoi ? Frères et sœurs, alors que Dieu m'interpellait, il me disait, penses-tu que je puisse avoir moins d'exigence envers les temples que vous êtes, dans ce que vous êtes appelés à devenir, que l'exigence que j'ai eue à l'égard de Moïse pour construire le tabernacle ? Penses-tu que vous pouvez vous permettre d'être moins exigeant quant au temple que vous devez être, dans lequel je suis censé venir habiter, que Moïse ne pouvait l'être dans l'exécution des ordres que je lui avais donnés. Le tabernacle ne fut pas construit selon la fantaisie humaine. Il fut construit selon la pensée de Dieu. Et mon frère, ma sœur, nous chanterons et nous serons le temple du Saint-Esprit à partir du moment où nous serons construits comme le Saint-Esprit le veut. Mais ce n'est pas en faisant n'importe quoi, n'importe comment, et en déclarant que nous sommes chrétiens, que nous devenons le temple du Saint-Esprit. Il nous est dit, dans Éphésiens 2, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Frères et sœurs, le fondement qui a été posé en vous, c'est Jésus. C'est un fondement qui a été posé pour accueillir un palais et non pas une cabane en bois. Hello. Le fondement qui a été posé est un fondement qui a été posé pour recevoir un palais et pas une cabane. Et je me rends compte que les chrétiens construisent des cabanes en bois. Paul dit aux Corinthiens que nous devons veiller de quelle manière nous bâtissons. Il le rappelle, 1 Corinthiens 3, 10, car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ et nul ne peut en poser d'autres. Certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. Mon frère, ma sœur, Ce matin, c'est un solennel appel au sérieux. C'est un appel solennel à revenir et à considérer le sérieux de l'Écriture. Si Dieu avait des exigences envers son peuple, il en a envers nous. Dieu n'a pas changé. La Bible nous dit qu'il n'y a pas en lui l'ombre d'une seule variation. Il est bon, mais pas bonbon. Dans son amour, il nous aime de trop. Il nous aime de trop pour nous laisser tels que nous sommes. Dieu t'aime tel que tu es, c'est vrai, mais il t'aime de trop pour te laisser comme tu es. Il veut te changer. Il veut me changer. Il veut nous transformer. L'épreuve viendra. La Bible dit que le jugement viendra, révélera l'œuvre de chacun. Je ne souhaite pas que vous ayez construit des cabanes. Je souhaite que ce soit des temples établis. Je ne souhaite pas que les choses aient été faites à la légère, mais au contraire, qu'elles aient été prises au sérieux, avec tout le sérieux nécessaire. Mes frères, mes sœurs, ce matin, où en sommes-nous? Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7, nous dira que tout sera éprouvé par le feu. L'or ne deviendra que plus pur, mais tout le reste sera balayé, consumé. Ce matin, le mot tabernacle, je vous le rappelle, signifie tente. C'était quoi le tabernacle? C'était un temple ambulant. C'était un temple transportable. C'était un temple tout court, transportable, c'est tout. Pourquoi une tente? Dieu était en train de s'identifier à son peuple. Les Hébreux vivaient sous des tentes et se déplaçaient sous des tentes comme des nomades. Dieu va s'identifier à eux. Il voudra que sa maison soit une tente où il habitera. Pourquoi? Parce qu'il était en train de démontrer à son peuple ce qui est vrai pour nous aujourd'hui. Où que vous alliez, je suis avec vous. Les dieux de l'époque, les dieux égyptiens, les dieux païens, étaient souvent rattachés à une montagne, à un fleuve, à une rivière, à un endroit précis. Lorsque le païen se déplaçait, il partait, il laissait son dieu et son temple. Lorsque Israël se déplaçait, eh bien Dieu se déplaçait avec eux. Il leur rappelait que là où lui se trouvait, il était chez lui en tout lieu. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si je suis le temple du Saint-Esprit, alors je n'ai pas à craindre. Je suis un peu consterné devant les réactions des chrétiens. Parfois je les vois effrayés par les démons. Ils en voient partout d'abord. Non pas qu'il n'y en ait pas, comprenez-moi bien. C'est très important ce que je vous dis. Mais les chrétiens sont très superstitieux. Il y a de la superstition chez les croyants. De la superstition. Frère, mais si jamais, et je l'ai rencontré à différents endroits, souvent, frère, vous comprenez, j'ai toutes ces luttes parce qu'on me jette des sorts. J'ai dit, mais c'est que tu n'as pas de ressort. Toute malédiction invoquée injustement contre Jacob sera sans effet. Parfois, j'ai l'impression que pour nous chrétiens, il nous faut d'abord, nous, avec nos armes spirituelles, ouvrir la route au Seigneur pour qu'enfin lui puisse venir, alors que c'est l'inverse. Là où le Seigneur vient, le diable doit fuir. C'est pas le diable qui dit, bon, je suis d'accord, tu peux venir t'installer. C'est Dieu qui dit, j'arrive, dégage. J'arrive. Lorsque Dieu vient, les ennemis tremblent. Balaam voulut maudire Israël, il finit par les bénir. Vous croyez combien ont voulu maudire le papa Jean? Combien ont voulu me maudire? Je sais pas combien ont dû percer des poupées. Heureusement qu'on a le modèle plastique. Mais je sais une chose, tant que je suis en Christ et que l'Esprit de Dieu habite en moi, je n'ai pas à craindre les malédictions invoquées, je n'ai pas à avoir peur. Oui, tu peux applaudir, pas moi, mais le Seigneur. Je n'ai pas à avoir peur. Israël avait Dieu avec eux, où qu'ils aillent. Il savait que Dieu était là. Et c'est parce que nous n'avons plus toujours la conscience de sa présence que nous avons peur. C'est pour cela que nous devenons parfois superstitieux. Le tabernacle était un lieu de communion, d'adoration. Communion, adoration. Est-ce que ta vie est une vie de communion avec lui et d'adoration? C'était le lieu où Dieu descendait, parlait à Moïse, parlait au travers de Moïse à tout le peuple. C'était un lieu où Dieu rencontrait régulièrement son serviteur. Toi qui es temple du Saint-Esprit, puisque nous l'avons chanté, as-tu régulièrement cette rencontre personnelle avec lui? Ou est-il obligé de te chercher comme Adam dans le jardin? Dominique, où es-tu? Non, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre là-bas. Où es-tu? Dieu nous fixe des rendez-vous. Sommes-nous au rendez-vous? Ah, je suis le temple. Mais c'était pas une roulotte de cirque, le temple. C'était le lieu de la présence de Dieu. Le tabernacle était au centre d'Israël, au centre du camp. Toutes les tribus étaient à égale distance, toutes. Il n'y en a pas un qui ce matin pourrait dire « Ah ben Dieu est plus éloigné de moi que de toi ». Dieu veut être au centre de tous ses adorateurs. Au centre, il y avait les 12 tribus d'Israël. Elles étaient disposées autour du tabernacle à égale distance. Il n'y en avait pas une qui soit moins considérée qu'une autre. Mais encore une fois, le tabernacle était au centre, mon frère, ma sœur, ce matin. Est-ce que la vie de Dieu est au centre de ta vie? Ça, c'est la question. Est-ce que la vie d'en haut, vous, chers internautes, est au centre de votre vie ici sur terre? Sommes-nous préoccupés à chercher les choses d'en haut ou sommes-nous tout le temps à fouiller comme les poules en cherchant les choses en bas? Frères et sœurs, le centre. Dernièrement, quelqu'un me disait, moi j'ai la foi. J'ai dit, écoutez, déclarer que vous avez la foi, ça n'importe qui peut le faire. Mais la foi se démontre par les choix que vous faites dans votre vie. Et permettez-moi maintenant de dire quelque chose qui peut déranger, mais je le dis quand même. Si vraiment Dieu est le centre, si vraiment nous aspirons à le suivre de tout notre cœur, s'il est ce que nous prétendons qu'il est, et si nous sommes ce que nous prétendons être, le temple du Saint-Esprit, alors pourquoi tant de croyants qui s'endettent pour les choses de la terre, à devoir travailler toute leur vie à rembourser, à ne plus pouvoir s'occuper de l'Éternel, tellement ils sont usés et fatigués? Je n'ai pas dit n'ayez pas une maison. Je n'ai pas dit n'ayez pas un chez vous. Je n'ai pas dit n'ayez pas une voiture. Je n'ai pas dit ne gagnez pas beaucoup. Gagnez beaucoup, autant que vous pouvez. Mais pour le royaume des dieux. Je vois des croyants tourmentés qui ne dorment plus. Comment vais-je faire? Comment vais-je? Frères et sœurs, si vous en êtes là, dégagez-vous. Comme vous le pourrez, dégagez-vous. Construisez plus petit, plus simple, moins cher. Mais au moins soyez sûr que vous le gardez toute votre vie, le toit. Au lieu d'avoir une grosse berline. Je suis pas contre les grosses berlines. Je suis pas contre les belles voitures, comprenez-moi. Mais quand pour avoir la belle voiture ensuite, on passe son temps à courir et à rembourser, je me dis non, non, là il y a quelque chose qui joue pas. Frère, vous savez, j'ai pas le temps pour l'église, j'ai pas le temps pour le Seigneur, j'ai pas le temps, il faut que nous remboursions, il faut que nous travaillions, et on travaille maintenant à deux. Quand vous aurez fini, votre maison aura des trous dans les gouttières, vos enfants seront partis, vous voudrez servir Dieu. Attendez, nous venons tout le temps avec les restes. Frères et sœurs, Dieu veut le meilleur. Il veut pas les restes. Dieu veut pas le reste de ta vie. Dieu veut le meilleur de ta vie. Jeunes gens, vous qui êtes là, Dieu veut pas que vous veniez à lui au jour de la retraite. Il en a rien à faire. Dieu vous attend aujourd'hui. Les jeunes de 20 ans, 22 ans, levez-vous pour le servir. Faites des choix de vie dans lesquels vous aurez tout le temps du temps pour Dieu. Et Dieu vous bénira et vous honorera. Et au lieu de passer votre vie à trimer pour des trucs qui de toute manière rouillent, pourrissent et se gâtent, passez votre temps à travailler pour ce qui demeure éternellement. Mais pour ça, il faut la foi. Hello. J'essaie de vous dire les choses sans vous dire qu'elle est montée sur le toit. Mes parents ont fait des choix de vie. Nous, leurs enfants, on n'avait pas le choix. Mon père aurait pu me laisser une entreprise de chewing-gum, je vous l'accorde, mais quand même. Ça marchait, le chewing-gum. Hein, ça marchait bien. Les chewing-gums, les meringues, les bonbons, les sucettes. Il avait un coffre de représentants. Avant qu'il aille faire la tournée, nous, on allait piquer dedans quand il arrivait chez les clients. Oh. Non, mais c'était par amour, pour que ce soit moins lourd qu'on a fait ça. C'était juste par amour. Ils ont fait des choix de vie. Mais je bénis Dieu, papa, je te bénis d'avoir fait ce choix de vie. Je te bénis parce que tu as fait les enfants les plus heureux sur terre. Je te bénis. Et je bénis les hommes et les femmes qui sont capables de se dire « Notre royaume n'est pas d'ici-bas, il est là-bas ». Ça vous empêche pas d'avoir des loisirs, ça vous empêche pas de rire, ça vous empêche pas de skier si vous voulez, ça vous... Peut-être que vos skis seront pas les plus derniers cris. Et peut-être que tout le monde criera en voyant vos skis. Ça, c'est possible. Vous savez, être à la pointe, c'est toujours dangereux. Moi, je me souviens quand un frère m'avait prêté sa combinaison. Il est là certainement ce matin, je le remercie encore. Mais elle était splendide, cette combinaison. Elle était faite pour un bon skieur. Et moi, j'étais là dans cette combinaison. Elle brillait. C'était un gris qui brillait. On la voyait de loin, ma combinaison. Et j'avais eu mon frère David Muspak qui m'avait formé. David, merci David. Et mon frère est d'origine suisse-allemande. C'était intéressant quand il me formait. Il disait tout le temps, dans les genoux, sur les gares, dans les genoux. J'ai fait 3 jours comme ça, dans les genoux. J'ai fini sur les genoux. Et un jour, avec ma combinaison brillante, je suis descendu une pente. Et il y avait un tournant, je vous l'avais déjà raconté, avec un restaurant. Des centaines de skis plantés. Des centaines de personnes assises en train de... Et moi, j'arrive. C'était pas l'étoile du matin. C'était la flèche bleue. J'arrive et dans ma tête, il y avait le tournant qui allait aux télécabines là-bas. Et puis J'avais David avec moi, il habitait, David, il a dans les genoux, sur les gares. Une dame me voyait descendre de loin, elle me souriait de loin. Plus j'ai approché, plus elle a eu peur, elle est partie en courant. Ah ouais? Oui, mais attendez. Et moi dans ma tête, dans les genoux, sur les gares. Rah, tous les skis. Bon. Les gens étaient à la terrasse, ils regardaient. Et le mari de la dame, très énervé, vient me voir, il dit « Quand on sait pas ce qu'il y a, on reste à la maison, hein ?» Combinaison brillante. Plus tu brilles, plus tu as l'air ridicule quand tu tombes. J'aurais eu la combinaison de monsieur tout le monde, personne s'en serait occupé. Des choix de vie. Des choix de vie. Je vous dis, ce matin, oui, j'ai aussi un jour acheté une maison. Oui, j'ai aussi voulu assurer un toit à mes enfants. Mais je peux vous dire, et ma femme en est témoin, ma maison n'a jamais été l'objectif de notre vie. J'ai mis 20 ans à l'aménager. 20 ans et elle n'est pas finie. D'ailleurs, je l'entends régulièrement. C'est quand que tu fais le portail? C'est quand que tu peins la caisse? Eh bien, Dominique, un jour, tu auras un portail en or. Au centre, le tabernacle dirigeait le peuple hébreu. Dieu se manifestait au-dessus du tabernacle. Dieu se manifestait. Le peuple restait quand la nuée restait. Quand la nuée se déplaçait, le peuple suivait. Qu'est-ce qui dirige ta vie ce matin? Ceux qui sont conduits par l'Esprit seront appelés fils de Dieu. Qu'est-ce qui dirige nos vies, nos intérêts? Quelles sont nos motivations, frères, sœurs? Ce matin, je vous en supplie, écoutez la parole. Nous avons besoin de réaliser qu'il nous faut suivre la direction de Dieu. Il nous faut suivre la direction de Dieu. Ce n'est pas un péché d'acheter, ce n'est pas un péché d'avoir des dettes dans la mesure où tu peux servir le Seigneur, rembourser tranquillement. Mais ce matin, laisse-toi diriger par son esprit. Là où l'arche se trouvait, se manifestait également la puissance de Dieu. J'ai encore un peu de temps. Ça va? On continue? De toute façon, il n'est pas l'heure, alors. Et quand il sera l'heure, on en reparle. Hein. Bien. L'arche arrivait dans un lieu et la gloire de Dieu l'accompagnait. Josué arrive au Jourdain. Le Jourdain débordait, nous est-il dit, en ce temps-là. Et Dieu dit que les sacrificateurs qui portent l'arche, l'arche était portée à dos d'homme. Juste une parenthèse pour vous éclairer. Très souvent, on ne comprend pas ce qui s'est passé avec Uzza. Uzza a voulu soutenir l'arche lorsqu'elle est tombée. Vous vous souvenez de ça? Bon, d'abord, l'arche, il fallait pas la toucher, même pas la regarder. On en mourait. Deuxièmement, Dieu n'avait jamais dit de transporter l'arche avec des bœufs et un char. L'arche ne pouvait être transportée qu'à dos d'homme. Et quand David a fait transporter l'arche comme ça, eh bien finalement, il a récupéré l'arche comme les Philistins lui avaient envoyé. Sur un chariot, avec des bœufs. Pourquoi dis-je cela? Pour vous éclairer d'abord sur Uzza, mais autre chose. Pour que nous réalisions que rien de ce que Dieu ne commande, nous ne devons le mépriser. Tout est important. Tout est important. Josué 3. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Lorsque les Philistins voulurent voler l'arche, ce qui était une bénédiction pour les uns devint malédiction pour eux. Il est dit qu'ils mirent l'arche dans le temple de leur Dieu. Écoutez, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. C'est leur Dieu qui s'est incliné devant notre Dieu. Et c'est pas terminé. La main de l'Éternel s'apesantit sur les Asdodiens. Il mit la désolation parmi eux. Comment? Il les frappa d'hémorroïdes. Havenskrot, Stévrol. Vous imaginez tous les Asdodiens avec des démangeaisons? Là où c'est pas agréable? Une tribu entière. Ce qui est bénédiction pour les uns, quand d'autres y touchent, ça devient malédiction. Quand les fils de Séva voulurent chasser les démons comme Paul, ils prirent une raclée. Tu ne touches pas à ce qui est saint quand tu ne l'es pas. Mais par contre, Jésus lui nous envoie. Et que nous dit-il? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et si l'Esprit de Dieu habite en vous, comme ils mirent le pied dans l'eau, eh bien lorsque le sacrificateur, aujourd'hui, car nous sommes tous sacrificateurs avec Christ, il est notre souverain sacrificateur, eh bien la gloire de l'Éternel doit nous accompagner. Elle doit nous accompagner. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils sont remplis de sa présence. Alors ce matin, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Deuxième point. Transition du temple, fait de main d'homme vers le temple spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'on n'est plus dans le temple de Jérusalem? Que s'est-il produit? Comment se fait-il qu'aujourd'hui nous sommes les temples? Lorsque Jésus se trouvait à Jérusalem, avant la Pâque, alors qu'il était entré dans le temple qu'il s'était fait un fouet, qu'il chassera les vendeurs de pigeons. Il leur dira, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et là, les Juifs vont l'interpeller. Et lui disent, dans Jean 2, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte au moment où il vivait cela? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Jésus, lui, quand il parlait du temple du Saint-Esprit, savait de quoi il parlait. Il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Elles crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. En disant « détruisez ce temple », Jésus savait qu'au moment même où il le détruirait, la fonction de l'ancien temple n'avait plus de sens. Les sacrifices qui avaient lieu dans l'ancien temple ne pouvaient pas se substituer au sacrifice parfait de l'agneau de Dieu. Jésus met fin au temple de Jérusalem au moment où il est crucifié et il le prophétise 70 ans plus tard. Le temple sera détruit. Détruit. D'ailleurs, il semblerait qu'un empereur romain, non croyant, voulant démontrer que finalement n'importe qui pouvait rebâtir ce temple comme il le voulait, s'y est attaqué, et les ouvriers terrorisés sur le chantier par des manifestations surnaturelles qui avaient lieu, abandonnèrent les travaux. Jamais plus de temple ne fut érigé, jamais. Mon frère, ma sœur, ce matin, au moment où Jésus est mort, l'agneau parfait de Dieu expiait tous les péchés. Il n'y avait plus lieu d'avoir un endroit où les péchés seraient, eh bien, constamment expiés par le sacrifice d'animaux. À ce moment-là, du temple fait de mains d'hommes, du temple érigé par des hommes comme Salomon d'abord, puis réparé, reconstruit par Esdras, Néhémie, puis une dernière fois par Hérode, qui voulut le faire plus grand que ceux qui ne l'avaient précédé. Aucun de ces temples ne pouvait surpasser la gloire du temple que Jésus était devenu lui-même par le sacrifice unique qu'il a offert. À partir de ce moment-là, tout homme, toute femme qui recevait le Christ dans son cœur, recevait l'expiation pour ses péchés et pouvait devenir lui aussi, elle aussi, le temple du Saint-Esprit. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Écoutez ce qu'il est dit. Écoutez ce qu'il est dit. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Ensemble, nous formons le temple de Dieu. Qu'est-ce que je veux vous dire? Vous êtes des pierres vivantes. Je suis une pierre vivante. Et ensemble, nous formons le temple de Dieu. C'est pour cela que l'Écriture dit aussi dans 1 Corinthiens que celui qui détruit le temple sera détruit. Quand des hommes, des femmes s'attaquent à une église, divisent une église, ils s'attaquent au corps, ils s'attaquent au temple. Et là, c'est plus les hommes qui disent, c'est plus un pasteur qui dit, c'est Dieu qui dit. Celui qui cherche à détruire, il sera détruit. Mais de la même manière qu'ensemble nous formons un corps spirituel, un temple, individuellement, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, je me réjouis de savoir que je suis assis à côté d'un temple. Ou alors un temple en devenir. Il me reste 7 minutes. Non. 7 minutes sur ma montre. Ok. La dernière ligne droite, vous me suivez? Troisième point. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors, il y a des petits temples, il y a des grands temples, il y a des cathédrales. Mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Écoutez bien, j'ai trouvé, vous savez, quand Dieu me donne comme ça un message, quand ça me poursuit pendant des semaines, alors je le bénis parce qu'il me permet de découvrir des choses simples que vous avez peut-être découvertes, mais à mon niveau, c'est important. Dans le temple, alors qu'il fait de l'ordre, alors qu'il chasse les vendeurs, alors qu'il renverse les tables des changeurs, Jésus dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Et j'ai réfléchi là-dessus. J'ai dit, mais Jésus, tu dis, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Pourtant, cette maison-là, finalement, c'est pas ton Père qui l'a érigée, c'est Hérode. Chacun pourrait dire, c'est le temple d'Hérode, dans lequel Dieu se trouve, c'est le temple d'Hérode. Jésus dit non, c'est la maison de mon Père. Il déclare que le temple d'Hérode, c'est la maison de son Père. Il te dit ce matin, ton corps, c'est mon temple à moi. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, comme tu veux, avec ton corps. Ce corps, c'est le temple dans lequel j'habite, donc il est à moi, dit le Seigneur. Tu n'as plus la liberté de gestion comme tu l'imagines. Ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 6, 19, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Ça, je l'ai déjà appris quand je me suis marié. Allez les frères, soyez courageux. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? Et les sœurs? Mes sœurs? Dominique? Mais dis quelque chose, d'habitude tu parles toujours. Dis par exemple, je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Samuel. Mais c'est pas Jeanne qui va me dire ça. Christine, tu t'appartiens plus. Tu appartiens à Jean-Claude. Vous savez ce qu'il est en train de penser? Si seulement c'était vrai. Parfois, j'arrive à lire dans les yeux. Paul l'exprime. Le mari appartient à la femme et la femme à son mari. Mais nous appartenons d'abord au Seigneur. Nous sommes son temple à lui. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Et plus loin, elle dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, 1 Corinthiens 3, 16, 17, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, pourtant je lis dans l'Écriture que le temple fut détruit. Pourtant, je lis dans l'Écriture, le temple fut détruit. En 587 avant Jésus-Christ, les Babyloniens s'emparèrent de Jérusalem. Et ils pillèrent le temple et l'incendièrent. Il fut détruit. Il fut détruit. Lorsque j'ai lu cela, ça sonnait pour moi comme un avertissement. Il fut détruit. Pourquoi? 2 Chroniques 36. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes. J'espère que ce matin, c'est pas le cas. Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre le roi des Chaldéens et tua par l'épée les jeunes gens, etc. Plus loin, Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Le temple, ce temple érigé par Salomon, Ce temple pour lequel David avait travaillé, avait mis de côté tout ce qu'il fallait pour construire un temple merveilleux, détruit. Pourquoi ? Pourquoi, frères et sœurs, ces choses ont été écrites afin de nous servir d'exemple ? Elles sont écrites afin de nous servir d'exemple. C'est arrivé parce qu'ils transgressaient et vivaient en abomination comme les nations au milieu desquelles ils se trouvaient. Il est dit, ils profanèrent. En d'autres termes, ils violèrent le caractère sacré. Ils firent un mauvais usage de ce qui était respectable et précieux. Comme j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, garde ton église. Garde le temple que nous sommes. Garde-nous de l'assimilation au monde. Oui, je sais que nous sommes dans le monde. Le fait d'être dans le monde ne m'empêche pas d'avoir mes enfants au club, de basket, de participer à la vie de la société. Mais attention, entre participer à la vie de la société et participer au péché de la société, il y a une différence. Assimilation, on s'habitue, on est anesthésié. Frères, sœurs, je vais ce matin vous avertir. Lot habitait Sodome et Gomorre. Il s'y est habitué, tout neveu d'Abraham qui il était. Connaissant Dieu, il s'y est habitué au stade où quand les anges arrivèrent chez lui qui se présentèrent sous forme d'hommes, les hommes de Sodome voulurent les connaître. Le terme connaître là signifie avoir des relations sexuelles avec eux. C'est pas faire connaissance, bonjour, tu vas bien, d'où vas-tu, c'était autre chose. Ils viennent frapper à la porte de Lot. Et voilà ce que Lot fait. Au lieu de compter sur la gloire de Dieu, au lieu de résister à ces hommes, il dit non, attendez les gars, dites-vous qu'il avait des obsédés sexuels devant la porte. Hein. Il leur dit attendez, ça peut s'arranger, j'ai deux filles vierges, je vous les donne. Un père qui connaît Dieu, qui donne ses deux filles vierges à des fous, à des obsédés. Que penseriez-vous que ces filles auraient vécu? Je suis sûr qu'elles seraient mortes de viol. Mortes. Ils voulaient les hommes, pas de filles. Ils les offraient, assimilés, plus conscience de la gravité de ce qu'ils faisaient. Eh bien aujourd'hui, frère, sœur, beaucoup de chrétiens ont tendance à finalement aller minimiser le péché. J'entends souvent, Sam, quand même, fais attention, faut pas être trop extrême, etc. On ne joue pas avec Dieu. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Mais vous ne pourrez pas dire que je ne l'ai pas dit. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Le tentateur agit de manière insidieuse ? Comment ? Tous vos feuilletons à l'eau de rose, là. Attendez, laissez-moi réfléchir un tout petit peu avec vous. Tous les jours, les jeunes voient des jeunes qui flirtent ensemble, qui couchent ensemble, qui se trompent. De temps en temps, on nous montre encore deux homos très sympathiques, qui sont beaux, sont très sympas. C'est les deux gars les plus sympas du téléfilm. Et puis finalement, ils sont sympas. Non, mais frère, faut pas exagérer, c'est pas aussi grave que ça. Non, arrêtez. Et puis, tous les jours, dans vos feuilletons à l'eau de rose, c'est le mari qui trompe sa femme. Puis quelle belle histoire d'amour. Et votre conscience s'endort. Et le jour où la tentation est là, tout d'un coup, la force de résister n'est plus là. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Quand nous regardons cela, l'Esprit de Dieu en nous regarde. Nous ne pouvons pas jouer avec cela. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. On ne parle plus d'adultère aujourd'hui. On parle d'aventure. T'as plus un type qui dit « j'ai trompé ma femme ». Non, j'ai eu une aventure. C'était merveilleux. Aujourd'hui, les gros mots, même les chrétiens, les gros mots, parfois j'en entends, mais les chrétiens, ils sont intelligents. Ils disent « tu sais, c'est écrit dans le dictionnaire ». Ah bon, parce que le fait que c'est écrit dans le dictionnaire, je peux commencer à devenir vulgaire ? Ah bon, le temple que je suis, qui chante Alléluia le dimanche matin, peut commencer à être vulgaire dans la semaine, au nom du Larousse. T'as vu ça où? Mais, frères et sœurs, nous ne pouvons pas mettre le dragon de l'abîme sous le même attelage que le lion de Juda, c'est pas possible. Si je suis le temple du Saint-Esprit, alors ça implique aussi toutes ces choses-là. La parole de Dieu nous avertit, fuyez l'immoralité, 1 Corinthiens 6. Tout autre péché commis par l'homme reste extérieur à son corps, mais l'homme qui se livre à l'immoralité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Frères et sœurs, on a beau dire tous les péchés sont égaux, il y a des péchés qui ont des conséquences sur vous supérieures à d'autres. C'est dans votre corps, c'est dans votre corps. Ce matin, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Permettez-moi un avertissement. Ce que je vous dis là, ce n'est pas des choses anodines. Comme l'ennemi est entré dans le temple de Jérusalem, vous pouvez vous donner accès au malin. Ne l'oubliez jamais. Je crois de tout mon cœur qu'un homme qui s'est repenti, qui est né de nouveau, qui est rempli de l'Esprit de Dieu, ne peut pas avoir de démons. Mais un homme qui se dit chrétien et qui se livre à toutes sortes d'immoralités peut ouvrir la porte à des esprits méchants. Je ne dis pas systématiquement. Jésus ne dit pas à la femme adultère, « Viens, je vais te chasser ton esprit d'adultère. » Il dit, « Va et pêche plus. » Mais dans certains cas, vous avez des cas de possession. Je n'explique pas comment il a eu un droit. Et pourquoi il a eu un droit là. Mais je sais une chose, le droit lui a été donné. L'ennemi est entré dans le temple. Il est dit littéralement, « Ne donnez pas de place pour le diable. » Dans 2 Thessaloniciens, quand il nous est parlé du retour du Seigneur, il nous est même dit que l'ennemi s'assiéra dans le temple de mon Dieu. Vous avez des chrétiens avec des fichus problèmes spirituels, mais qui sont eux-mêmes à l'origine de cela, parce qu'on a pris à la légère, on a minimisé. Vous pouvez minimiser, et le diable vous aidera à minimiser. Mais plus vous minimisez, plus vous lui ouvrez une porte. Tous les péchés ne mènent pas à cela. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je veux avertir du sérieux. Permettez-moi de conclure. L'Épître aux Hébreux nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dans Genèse, Dieu s'adressant à Caïn lui dit, si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus, sinon le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Mon frère, ma sœur, ce matin, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous l'avons chanté. Je pense que nous aurions plus de mal à le chanter maintenant, de manière aussi légère que nous pouvons le chanter d'habitude. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela doit changer? Le temple où Dieu règne. Maintenant, ce matin, et c'est ma conclusion, quelqu'un me dira, mais frère, et si j'ai péché? La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et je crois que quand il nous pardonne, il nous libère aussi. Et encore une fois, chaque fois que nous avons péché, nous n'avons pas forcément un problème d'ordre démoniaque. Parce que là aussi, systématiquement, dès que quelqu'un a péché, t'as un démon. Non, non, loin de là. Mais tu peux ouvrir et faire une place. Et le temple de Jérusalem nous le montre. Cependant, si Dieu permit, à cause du péché, la destruction du temple de Jérusalem, j'aime vous dire qu'il n'est pas resté là-dessus. Il a permis sa reconstruction. Et s'il y a ce matin des hommes et des femmes qui me disent, mais moi j'ai chuté, moi j'ai ceci, moi je suis tenu par la pornographie, mais moi j'ai vu des prostituées tout en étant croyant, mais j'ai fait ceci, mais je suis tenu par l'homosexualité. J'aimerais te dire que si tu te repens, j'aimerais te dire que si tu reviens à lui, Dieu, lui, permettra que tu sois reconstruit. Dans Esdras, il est dit, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Fermons nos yeux un instant.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.